c'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous et aussi, comme vous voyez, de pouvoir accompagner le staff qui fait leur formation, qui prend de plus en plus de maturité, de place dans notre école. Ça fait que moi et mon épouse Priscilla, qui est juste là avec moi, nous sommes les plus vieux dans l'équipe présentement, qui fait que nous sommes les coachs de tout le monde, sans l'air. Et nous avons vraiment un privilège de travailler avec l'équipe de jeunes qu'on a cette année. C'est vraiment un privilège. Et en communauté, 11 étudiants, 16 dans l'école de langue, 20 staff, 4 internes. Donc, c'est toute une petite communauté avec toutes sortes d'âges et de situations de vie et tout ça. C'est vraiment un privilège pour nous d'être là. Juste une seconde, j'ai un problème, je peux pas lire. Ça va aller mieux. OK. Là, en accompagnant les jeunes, il y a toujours avec eux, d'année en année, une grande question avec eux, c'est la question de leur assurance salut. C'est l'âge pour ça. J'accueille ça très favorablement. Regardez bien, la plupart de nos jeunes ont eu le privilège de grandir dans une église évangélique avec des parents cohérents, comme j'ai eu ce privilège-là aussi. Mais juste pour faire un contraste, et c'est leurs grands-parents, normalement, qui ont fait les grandes conversions de sortir de toute la tradition qui voulait comme rejeter pour trouver Jésus-Christ, une relation personnelle avec lui, tout ça. Même affaire pour moi, c'est mon grand-père qui a vécu comme jeune homme une conversion radicale près de Saint-Louis aux États-Unis, en Illinois. Et lui a eu la malchance de découvrir le Seigneur en plein hiver. Donc, pour son baptême, ils ont littéralement brisé la glace d'une rivière avec une hache. OK? Pour vrai, là. Il a dit que, je l'ai pas connu, c'était juste avant ma naissance, mais selon l'histoire, c'était pas le baptême comme tel qui était si difficile, c'était le retour en carriole après, là, de dire, « Hey, boy! » Mais là, vous voyez, ça, c'est une conversion radicale. Il a pris position pour Jésus-Christ pour trouver de l'ordre dans sa vie. Il venait d'une situation assez chaotique, très difficile, et pour lui, Jésus était vraiment son sauveur pour tout, OK? Parce qu'il avait besoin de changer sa vie. Contraste, mon baptême, c'est dans mon église, dans mon église dans laquelle j'ai grandi, avec le fils de mon grand-père comme père, cohérent, l'évangile très clair tout le long. J'ai pas connu un temps que j'ai pas connu que Jésus m'aimait. Okay? Et donc, mon baptême était dans l'eau chaude. À l'intérieur, je me baignais, OK? Quasiment, OK? À 10, 11 ans, là. Et pour moi, c'était pas « Sauve-moi la vie, ça n'a pas de sens! » C'était « Ouais, je continue. » Hein? OK, j'aime Jésus et je veux annoncer publiquement qu'il est mort pour moi. OK, le contenu n'a pas changé, mais le contexte, oh boy. OK, donc ça fait que nos jeunes sont dans cette situation-là. J'ai pas un témoignage comme mes grands-parents. J'ai pas une conversion comme Saul sur le chemin pour être changé complètement sur le chemin de Damas. Moi, ma conversion, c'est plutôt comme Timothée sur les genoux de ma grand-mère. C'est beaucoup moins violente. C'est aussi bien solide. C'est encore un miracle de Dieu, OK? C'est la vie nouvelle, mais c'est par des étapes moins reconnaissables, moins flagrantes. Donc, toute la discussion continue. Donc, je vous invite à une discussion que j'ai avec les étudiants chaque année. Dans la question, on est dans de théologie systématique de Ryrie. Et Ryrie va nous dire dans notre cours de sotériologie, le cours de salut, pourquoi on a la difficulté à spotter le temps de notre salut. Pourquoi c'est parfois difficile? Certains doutent de la réalité de leur attachement à Christ. C'est notamment le cas de ceux qui ne peuvent pas indiquer le moment précis de leur conversion. Mon grand-père, aucun problème. Moi, et les jeunes, « Oui, mais... OK, vous voyez, là? » Donc, il se peut fort bien que nous-mêmes soyons incapables de situer dans notre souvenir ou dans notre compréhension. Un autre problème, c'est que certains manquent d'assurance parce qu'ils mettent en doute la validité du processus par lequel ils sont passés, quand ils ont exprimé leur foi en Christ. Moi, je l'ai fait, mais c'est-tu la bonne foi? C'est-tu assez sincère? Est-ce que j'ai réellement accepté? Est-ce que j'ai bien formulé la prière comme il convenait? On a cette discussion tout le temps, OK? J'accepte ça, je mange de ça, c'est vraiment une belle discussion à avoir, et je les comprends tout à fait avec ça. Donc, une partie de la discussion, forcément, doit être, mais quel est le message de l'Évangile? OK, on doit mettre ça encore plus clair. Qu'est-ce que c'est au juste que l'Évangile, comment c'est présenté? Et ce matin, j'aimerais aller avec vous en acte 2 pour voir la toute première fois que l'Évangile est annoncé par l'Église. C'est toute une situation. Et ce que je cherche avec ça, comment l'Évangile est conçu? C'est quoi la conception du message? Conception dans les deux sens. Cling, lumière, idée, pensée. Comment Pierre, dans ce message-là, a tissé ses idées ensemble pour présenter l'Évangile, mais aussi conception dans le sens de début de la vie. Parce que cet Évangile-là donne la vie nouvelle aux gens qui croient. Donc, il y a ça comme aussi une nouvelle vie qui prend forme dans l'Église. OK? Et le contexte de ce message, on est dans un contexte de, rappelez-vous, qu'on est à la Pentecôte, en acte 2, que la dernière fois que j'ai prêché avec vous, on a dit que la Pentecôte, c'est le tour de Babel à l'envers. Okay? Le tour de Babel, c'était le jugement et la confusion que Dieu a guéri avec la Pentecôte, que maintenant on a la compréhension et la bénédiction. Dieu est à l'œuvre pour bénir toutes les nations avec ça. Donc, c'est ça le contexte. Et alors, on a dans le texte, qu'est-ce que Pierre va faire? Il y avait, en séjour à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations, qui sont tous sous le ciel. À ce bruit-là, ils accoururent, parce qu'ils ont parlé en d'autres langues et tout ça, donc ça fait beaucoup de bruit, ils accoururent en foule, et furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? » Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? OK? Première question de pourquoi on a ce message-là? Parce qu'il y a une question dans la foule. Qu'est-ce que cet événement-là que les Galiléens parlent nos langues, qu'est-ce que cela veut dire? Et typiquement, ils ont eu leur page Facebook de l'époque. Quelqu'un fait une critique, fait une craque. Ben là, ils sont pleins de vin doux. OK? Donc, il y a déjà un débat en discussion. La première fois que l'Évangile est présenté, il y a déjà pas ça. Bienvenue au monde, ça n'a pas changé. Toutes les discussions de l'Évangile vont avoir ces éléments-là de quelqu'un qui est sceptique ou qui veut juste faire un crack, une insulte comme ça. Donc, on est en dialogue, donc. Donc, Pierre va donner son explication de, un, qu'est-ce que l'explication ne l'est pas et qu'est-ce que l'explication est. On va voir le faire. Alors, Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima. Le mot s'exprima, dit clairement, il explique, il prend son temps, il réfléchit, là, l'ampoule, là, il est en train de cogiter comment bien donner cette explication. Une voix forte en ces termes, « Homme de Judée, et vous tous qui séjournez en Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » De un, qu'est-ce que ce n'est pas? Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Dans une fête juive, le déjeuner se faisait à 10 heures le matin pour commencer la journée ensemble. Il est trop tôt pour la boisson, là. Donc, on n'est pas dans ça. Mais, maintenant se réalise ce qui a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, Je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. » Pierre est en train d'expliquer, avec, en citant le prophète Joël, que c'est le commencement du but de toute l'humanité qu'il soit rempli du Saint-Esprit en communion avec Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a créés, toutes les cultures, pour les remplir de son Saint-Esprit, pour vivre avec lui en communion. « Je ferai des prodiges, » il continue avec Joël, « en haut dans le ciel, et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu, en vapeur, du fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. » Là, on est en apocalyptique là, avec tout ça. « Qui est la fin des temps, de ce jour grand et glorieux. » Mais aujourd'hui, ici que Pierre dit, à la Pentecôte, c'est le début de l'arrivée du jour du Seigneur, tel que prophétisé en Ésaïe 44, en Ézéchiel 39 et en Joël, ici. Ça commence, là. Branchez-vous. Alors, puis il donne le punch de son message, qui cite encore Joël 3, « Toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Et on a tout de suite la vie de ce message-là. C'est pas juste par curiosité qu'il donne ça. L'Évangile est conçu pour vous sauver, pour vous donner la vie. C'est la conception même de ce message-là, c'est pour la vie. Donc, ça, c'était l'explication de qu'est-ce que c'était ces phénomènes-là. Mais Pierre continue son deuxième point, par qui ces événements sont arrivés? Qui a envoyé ça? Là, il part dans un discours un peu long, mais il est en train d'expliquer c'est qui a envoyé ça et pourquoi. Il va backer son message avec quelques citations de l'Ancien Testament encore. Pourquoi? Parce qu'il est un groupe de Juifs qui connaissent leurs Anciens Testaments dans une fête juive. Donc, il a le droit d'expliquer comment la personne qu'il va présenter remplit les prophéties dont il va parler. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges, des signes. Comme il vient de dire que Joël a dit que dans la fin des temps, on va voir ça. C'est Jésus qui l'a fait. Comme vous le savez vous-même, cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne, comme on a chanté ce matin. En effet, David dit à propos de lui, « Tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, je suis en train de citer psaume 16. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort. Il a été enseveli. Son tombeau, là, on est à Jérusalem. Son tombeau, là, il est juste là. Il existe encore. Parmi nous, or, il était prophète, David, et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. Mais c'est qui ça? David a promis que le Messie ne va pas, après sa mort, ne sera pas en décomposition. Il ne peut pas faire ça, il va vaincre la mort. Mais c'est qui? C'est donc la résurrection du Christ, du Messie, qu'il a prévu en annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Mais c'est qui? C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Et là, il parle des autres 11 avec lui, là, qui sont devant eux. Nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a déversé Ce phénomène que vous voyez aujourd'hui, c'est Jésus qui l'a envoyé parce que maintenant, il est au ciel, il règne, il a l'autorité pour nous envoyer le Saint-Esprit. Ça, c'est pourquoi on l'a reçu aujourd'hui. Et déversé sur vous, comme vous voyez et entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David n'est pas le Seigneur, c'est son Seigneur qui est le Seigneur, qui est Jésus. Que toute, ça c'est l'idée centrale de son message, donc que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Là, il y a une déconnexion de gloire et d'horreur dans la même phrase. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, la foule réagit avec une question. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? Dieu a envoyé son Fils, son Messie, qui est ressuscité, et nous l'avons tué. » Oh boy! Pierre leur dit, « Changez d'attitude, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, comme pour faire affiliation à ce nouveau groupe, à ce nouveau corps, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous. » Cette idée qui a été prophétisée en Joël puis en Ésaïe et tout ça, que Dieu va nous habiter par son Saint-Esprit dans toutes les nations, c'est pour vous et pour vos enfants intergénérationnels. Et pour ceux qui sont au loin, interculturels, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendit témoignage et les encourageait en disant, « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Donc, on a, avec beaucoup d'autres paroles, qu'on a l'idée que Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, donne un résumé de c'était quoi le message que Pierre a enseigné là. OK, donc quel est le message de l'Évangile que Pierre vient de faire? Il y a beaucoup de détails là-dedans, donc je vous donne un outline de qu'est-ce qu'on vient de voir. C'est pas mon idée, ça vient d'un commentateur biblique, Jacques Dupont, qui a mis les 8 points que Pierre a utilisés dans ce texte-là. Et que c'est clair qu'on vient de voir que Luc dit, mais avec beaucoup d'autres paroles, on donne l'idée que Luc est en train de donner le résumé de ces 8 points-là. Curieusement, les mêmes 8 points reviennent dans les autres messages de l'Évangile plus tard dans le livre. OK? Ils sont répétés. C'est à peu près le même logique, la même conception de l'Évangile qu'on a. Et donc, Pierre a commencé avec le ministère miraculeux de Jésus-Christ. Quand il dit aux gens de Jérusalem, que vous savez, vous l'avez vu. Donc, allons voir qu'est-ce que c'est ce message-là, c'est ce ministère-là de compassion, d'obéissance, d'accueil, d'enseignement. Vous connaissez cette vie-là que Jésus a vécue et sa mort par les Juifs aux mains des Romains, pour lesquels vous êtes responsables, by the way. Okay? Donc, il dit, vous avez connu ça. Et nous sommes témoins de sa résurrection, qui a vaincu la mort. Et donc, oui, quatrième, le témoignage officiel des apôtres. Nous tenons devant vous pour dire, nous avons vu Jésus ressuscité. À quelques reprises, devant nos yeux, il a mangé devant nous. Il nous a enseigné après, il est le Seigneur, il est maître de la vie, nous l'avons vu. OK? Et ensuite, tout ce qu'il a fait, comme Pierre vient de faire, en tissant tout ce message-là avec les Écritures, tout ce que Jésus a fait est prédit par les Écritures, donc c'est tout tissé ensemble, ce message-là. Ça n'a pas été inventé par quelques personnes, ça a été prédit des longtemps d'avance dans la parole de Dieu. OK, ça, c'est en jaune, c'est un peu l'histoire du passé. Ce qui est en vert, c'est notre actualité, qu'est-ce que nous devons faire avec ça. Donc, la nécessité de repentance, foi, conversion, pour le pardon des péchés, exprimé par le baptême d'eau. Okay? Et que là, avec le Saint-Esprit qui vient sur nous, on est en processus de transformation. Il y a un jeune qui a dit, moi je suis en processus de sanctification. C'est ça le contrat, le message de l'Évangile, ça fait partie de ça. C'est pas juste qu'il me pardonne, il est en train de me transformer. C'est ça une des idées, conception de l'Évangile dans ça. Et il y a le côté en bleu, le futur, le retour de Jésus avec un temps de bénédiction pour les justes et de condamnation pour les injustes. Ces promesses sont pour vous. Ça va être vrai, il va vraiment faire ça. Et sauvez-vous de cette génération pervertie parce qu'il va avoir un jugement. Donc, vous voyez, là, il y a ces éléments-là. OK, ça, c'est comment Pierre a conçu l'Évangile dans son discours et que Luc a dit, regardez, je donne un résumé de ça et ça va être répété à travers le livre des Actes des Apôtres. OK? Assez clair. Mais là, je veux juste faire quelques observations juste pour un peu coller le texte à notre réalité. Premièrement, c'était une fête juive, cette annonce de l'Évangile. Nous le lisons comme si c'était une campagne d'évangélisation, comme si c'était un message que Pierre avait conçu avec ses notes, avec son PowerPoint, il était tout prêt, tout ça. Wow, c'est une fête. Évidemment, c'est une fête importante et peut-être Pierre a l'idée, peut-être on doit enseigner aux nouveaux chrétiens comment suivre Jésus dans ça, mais il était pas prêt à, mais il voulait pas venir, la Pentecôte. Allô? Pas pour avoir tous ces phénomènes-là et tout couper court dans ça. Ça serait comme si vous êtes à un banquet de Noël. OK? Puis là, on sait que c'est une fête religieuse, on sait qu'il y a un message derrière ça, puis tout d'un coup, tada! Les spots viennent sur toi. Qu'est-ce que tu penses est le message? Il faut expliquer à tout le monde. Donc, Pierre n'avait pas grand temps pour préparer son message. OK? Mais quand même, c'est une fête avec une raison pour cette fête-là qui était pour fêter l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, qui était l'idée. Les prémices, c'est comme Dieu est à l'œuvre pour accueillir les fruits de son travail à travers le monde. Donc, Pierre avait maintenant à simplement peser sur play, mais ça doit dire. Donc, on voit que c'est un événement qui était imprévu. Encourageons-nous qu'il y a des situations dans la vie qu'on ne voit pas venir, mais qu'on peut, par la grâce de Dieu, dire quelque chose de cohérent qui va avec la situation. C'est un peu notre but, là, que Pierre nous donne comme un modèle. Et que Pierre a saisi cette opportunité-là pour être là-dedans, comme Jésus avait fait. Parce que l'enseignement de Jésus a toujours été comme, mais nous l'étudiant, comme si c'était encore tout planifié et tout ça, mais Jésus avait une activité, son enseignement était une activité occasionnelle et imprévisible, en saisissant chaque occasion propice pour le faire, était plein d'illustrations qui étaient même variées et adaptées à son public. Il laisse une grande place aux questions, surtout pour les controverses. Jésus lance des questions ou il écoute des questions, donc c'est un dialogue avec ça. Place aux questions. Okay? D'avoir ça. Il y a deux semaines, notre voisin, quand j'étais en train de défaire notre clôture pour la haie, pour pas être mangé par les chevreuils, ben, je défais la clôture, puis ça veut dire que je tourne le bord, puis je suis dans le cour de mon voisin, qui est là avec ses poules, avec ses deux garçons, da-da-da-da, tout ça, tout ça. Et là, on jase des situations et tout ça, puis tout d'un coup, il me pose la question, est-ce que mes garçons dérangent? Est-ce qu'ils font trop de bruit? Et je sais pas pourquoi, mais avec une question banale comme ça, Dieu m'a ouvert une porte que je ne voyais même pas venir. J'étais un peu comme Pierre. Okay. Et je dis, mais Hugo, tu sais que je suis chrétien, et il sait ça depuis longtemps, c'est pas une grosse affaire, mais je sais ça. Et dans mon église, il y a toujours des enfants, et souvent ils font du bruit. Et sais-tu quoi? Pour moi, c'est la musique. C'est la vie. C'est une bénédiction. Hugo, quand j'entends le bruit de tes enfants, ça me pousse à prier pour toi et ton épouse, pour la sagesse et le courage et la patience avec eux. Je suis fier du travail que vous faites avec eux. Il me regarde droit dans les yeux, il me dit « Merci ». Et une pensée pour vous, parce que je sais que vous avez un certain âge. Pour votre santé. OK, well, nice. OK, mais là, une pensée pour vous, c'est un mode code pour dire que Dieu vous accompagne. Dans... OK, donc, il n'y a pas fermé la porte du tout. OK? Regarde. Mais accidentellement, est-ce que mes garçons font trop de bruit? OK? Quand on est dans les questions, c'est une opportunité pour entrer dans la vie de quelqu'un d'autre, pour voir, et je sais que, parce qu'un de leurs garçons est handicapé, donc je sais que ils ont vraiment un grand défi dans ça. Donc, la raison pourquoi je dis de prier pour eux, je prie pour eux, OK? Donc, c'est ça. Donc, pour continuer, Pierre n'était pas seul dans sa présentation. C'est lui qui parle, mais il est avec les autres apôtres. Nous en sommes témoins. On fait que l'Évangile repose sur la confiance, la fidélité des gens enrangés sur la plateforme. Okay? Nous avons tendance dans notre christianisme moderne de se dire que simplement si j'ai un feeling assez grand, ça doit être ça la vérité. Mais notre foi repose sur les gens dignes de foi. Notre foi repose sur les apôtres. Notre foi repose sur les vies transformées qu'on a vues dans notre Église avant nous, avec des générations avant nous, pour dire, je vois que l'Évangile est vrai. J'ai vu, j'ai pas connu mon grand-père, mais j'ai vu les fruits dans sa vie, dans son fils, mon père. J'ai vu dans le journal que à sa mort, il était, la façon qu'ils ont décrit l'article dans le journal à sa mort, il a dit, Horace Peach, ami de ceux qui n'en avaient pas. Friend of the friendless. Yay. Jésus a transformé ce monsieur-là pour toute sa vie, pour être quelqu'un qui a accueilli les gens en difficulté. Ça vient d'où ça? Ça vient de la vérité de la parole de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Je tiens dans ma foi en disant, je crois que c'est vrai parce que j'ai vu l'intégrité et la fidélité des gens qui ont cru comme ça et je vois la c'est exactement, nous sommes témoins, faites confiance en nous. Il y a un élément de confiance dans l'Évangile, dans les gens avec les vies transformées. Et Pierre renforce évidemment son message avec les textes bibliques. Chaque fois, Joël 3, psaume 16, psaume 110. Et curieusement, quand l'apôtre Paul reprend les huit points plus tard dans son message en acte 17 à Athènes, là, il fait tous les autres points, mais quand ça vient le temps pour Paul de dire aux Grecs, il va pas citer les prophéties de l'Ancien Testament, il va citer les poètes grecs comme preuve de l'idée que nous sommes tous enfants de Dieu et nous sommes faits en os et chair, mais il va quand même chercher de la littérature respectée pour les gens dans son groupe, comme Pierre a fait chez les Juifs avec les Écritures. Il entend toujours pour venir à la parole de Dieu. C'est pas ce que je dis de pas faire ça, mais on peut toujours venir à des pensées, à la littérature que les gens connaissent. J'ai un étudiant qui a fait son travail en comparant les caractéristiques de Jésus-Christ, telles que dans le livre de Ryrie, avec le Seigneur des Anneaux. Il a dit, j'ai un paquet de gens autour de moi qui connaissent très bien les Seigneurs des Anneaux, mais ils ne connaissent pas Jésus. Pourtant, c'est évident qu'il y a des parallèles, que je peux leur donner des idées qu'ils vont comprendre parce que eux sont dans cette littérature-là. OK, juste une idée. Et il y a plein d'autres parallèles qu'on peut faire, qu'on peut rejoindre les gens dans les choses qu'ils comprennent, qu'ils étudient, qui voient les concepts là pour ouvrir une porte. Oui, on finit par être dans la parole de Dieu pour faire des parallèles avec ça. Et là, Pierre fait un parallèle entre les prodiges et signes miraculeux des deux cas de ce qui vient de vivre à Pentecôte et les miracles que Jésus a fait pendant son ministère. Et là, c'est comme si Pierre est en train de dire, « Hey, les boys, vous avez manqué le bateau le temps que Jésus était avec nous pour le crucifier, même en faisant tous ces miracles-là. Mais là, vous voyez encore aujourd'hui d'autres miracles. Manquez pas le bateau deux fois, là. Dieu est à l'œuvre, branchez-vous. » OK? Donc, pour aller plus loin dans l'idée un peu touchy, Pierre a identifié une double responsabilité pour la mort de Jésus. Vous l'avez arrêté, vous l'avez tué, mais il dit en même temps, en parallèle, Dieu avait fait un projet défini et par sa préscience, que Pierre va utiliser plus tard en 1 Pierre 1, le même mot, Dieu avait ce plan-là, donc il y a comme une double responsabilité. C'était curieusement le plan de Dieu pour nous sauver, mais quand même, vous en êtes responsable de l'avoir tué. Donc, les Juifs dans son auditoire sont très conscients d'avoir rejeté et crucifié Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont condamnés par ça. Mais là, imaginez, disons qu'il y a une petite voix d'une demoiselle dans la foule à Jérusalem. Elle dit, Pierre, j'étais là au procès. J'ai entendu quelqu'un avec un accent très similaire du vôtre, là, qui a dit, je ne le connais pas du tout, j'ai jamais vu cet homme-là, je sais quoi parler. C'était qui, ça? OK? Donc, quand Pierre est en train de dire, vous avez crucifié Jésus, il y a une petite voix en dedans de lui pour dire, et j'ai fait ma part pour le tuer aussi. Je suis responsable dans ma partie d'avoir rejeté le salut de Dieu en pleine face. OK? Ça fait partie de l'annonce de l'Évangile pour chacun de nous. Comme enfant, grandissant dans l'Église et tout ça, oui, j'avais l'idée du péché. OK, c'est le vol, c'est le mensonge, c'est de ne pas être gentil, c'est de ne pas écouter les parents, blablabla, et tout ça. Mais plus je grandis, plus je vois combien mon cœur est vraiment en rébellion contre Dieu, quand je vois l'attitude que ce petit geste de kid ou d'ado ou même d'adulte, qu'est-ce que ça veut dire dans la présence sainte de Dieu? Oh my! Comment il peut avoir fait ça pour moi, d'être mort pour moi? Et là, on a chanté, il était couronné de nos péchés, quelque chose genre là. C'était, Seigneur, tu as pris mes péchés sur toi. Ça fait partie de l'Évangile. Donc, Paul va dire, Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Donc, je suis le premier. Là, si dans toutes nos discussions qu'on a, on peut prendre cette idée-là, cette conception de l'Évangile, dans l'ensemble, et juste évaluer où est-ce que j'ai tendance à être à l'aise avec l'annonce de l'Évangile. Certainement, il y a deux, trois lignes qu'on connaît très bien. Oh, ça, c'est l'Évangile. OK? Mais le tout, et je vous propose l'idée, quand on est dans des discussions avec nos voisins, au travail, avec nos collègues, whatever, whatever, on n'est pas obligé de raconter toutes les huit, OK, pour évangéliser. Mais d'avoir une discussion sur une des lignes, sur un des points pour dire, ah là, ça me donne, juste dire, qui est Jésus? Juste dire, pourquoi je crois dans la résurrection? Pourquoi, moi, C'est qui les personnes qui ont été dignes de ma foi, qui ont démontré que ma foi est vraie parce que je vois en eux ce changement à travers le temps. Mais voyez-vous, il y a toutes sortes d'aspects possibles comme conversation possible dans tout ça. Regardez, je vous donne un exemple. J'avais, encore une fois, quelqu'un qui a posé une question. Moi, j'ai l'habitude avec les gens qui sont dans les McJobs, là, les étudiants qui sont aux caisses et tout ça, de comment ils sont en quel programme, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils aiment leur programme et tout ça. Puis je prends une demoiselle qui parlait de son programme. Elle dit, mais dans le fond, monsieur, j'aime pas mon programme du tout. Même j'ai arrêté mon programme, je sais pas quoi faire. Je pensais tel et tel, mais ça n'a pas été ce que je recherche. Et puis peut-être ceci, peut-être ce ça. Et monsieur, savez-vous quoi? Je pense que je suis vraiment à une croisée de chemin. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Question. OK. Et regarde, mais je dois l'apprendre où elle est. OK. Donc je dis, regarde, je suis chrétien. Je suis quelqu'un qui veut vivre en relation avec Dieu et je pense, mais je sais que Dieu veut que tu vis en relation avec lui aussi, mais commençons au début. Est-ce que je peux prier que Dieu te donne des personnes clés qui peuvent te donner des bonnes idées, un bon encadrement pour le choix de ton programme? OK. Mais là, je vais prier là. OK. Puis je demande à Dieu de lui donner des personnes dignes de foi, intelligentes, qui peut donner des bons conseils pour un programme qu'elle va trouver la passion dans sa vie et qu'elle découvre, Seigneur, une relation avec toi parce que c'est toi qui l'as créée pour toute sa vie dans tout ça. Seigneur, aide-la, cette fille-là à te découvrir. J'arrête là, puis elle est complètement en larmes. What did I do, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur, personne n'a jamais prié pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça. Dieu peut être intéressé en moi. Et voyez-vous, de sa situation, de sa question, il y a une porte d'ouverture. Premier pas pour elle, c'est de découvrir qu'il y a un Dieu qui pense à elle. Okay? Qui s'occupe d'elle et qu'il y ait des personnes intègres dans sa vie qui peuvent l'encadrer pour... Anyway, vous comprenez un peu l'idée. OK, là, j'arrête là, mais pour dire, Seigneur, donne-nous cette compréhension, cette diversité dans l'Évangile. Je veux simplement prier en priant cette annonce de l'Évangile. Prions. Seigneur Jésus, merci d'être fidèle. Merci pour ton amour dans ta vie sur la terre, ta douceur, ton écoute, ton accueil et ton obéissance d'aller jusqu'à la croix pour mourir pour nous dans une mort complètement injuste, mais que tu as choisi de faire, de passer à travers pour nous. Merci d'avoir vaincu la mort par ta résurrection. Merci d'être assis sur le trône de ton Père, à droite de ton Père, en glorification. Merci d'avoir donné des gens intègres pour témoigner de ta résurrection. Merci d'avoir mis des gens intègres dans nos vies pour nous montrer que l'Évangile est vrai. Merci pour le témoignage des Écritures, des prophéties accomplies qui sont solides. Merci de nous avoir appelés à la repentance, à mettre notre foi en toi et de témoigner de notre foi par le baptême. Merci d'avoir couru le risque de mettre ton Saint-Esprit en nous pour nous transformer. Nous avons hâte, Seigneur, à ton retour. Aide-nous, Seigneur, de vivre pour toi et d'aider, d'accompagner d'autres personnes pour qu'ils ne vivent pas la condamnation, mais qu'ils vivent la relation avec toi. C'est en ton nom que nous prions. Amen.